Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous aurons maintenant trois lectures avant la prédication. La première lecture se trouve dans l'Ancien Testament, du temps d'Akab.
Premier passage dans 1 Roi 21, versets 6 à 14. Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël ? Lève-toi, mange de bon cœur. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit les lettres en ces termes. Proclamez un jeûne. Faites asseoir Naboth à la tête du peuple et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait envoyé dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth à la tête du peuple. Les deux vauriens vinrent s'asseoir en face de lui, et ces vauriens portèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent dehors de la ville, ils le lapidèrent, et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, et il est mort. La seconde lecture, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, versets 53 à 72. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où se réunirent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait par la main de l'homme. » Et même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors, le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous besoin encore de témoignages ? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble, tous le condamnèrent comme passible de mort. » Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper, à coups de poing, en disant « Devine !» Et les gardes le reçurent avec des gifles. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda en face et lui dit « Toi aussi, tu étais avec ce Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. La servante le vit et se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Il est de ces gens-là !» Il le nia à nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, toi aussi, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen et tu parles comme eux. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Alors il se mit à pleurer. Et une troisième lecture dans le livre des Actes, Actes chapitre 6, depuis le verset 9. Quelques-uns parmi ceux de la synagogue dite des affranchis, parmi les Cyrénéens et les Alexandrins, et parmi ceux de la Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils n'étaient pas capables de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple et les anciens et les scribes, puis ils survinrent, le saisirent de force et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin fixaient les regards sur lui et virent son visage comme celui d'un ange. Le souverain sacrificateur dit alors « N'est-il bien ainsi ?» Et jusque-là, la lecture dans la parole de Dieu.
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui parle à notre esprit. C'est le témoignage de l'Esprit dans notre cœur qui va nous permettre de saisir la parole de Dieu, qui va nous permettre de saisir aussi ce qu'il veut appliquer pour nous aujourd'hui. Alors nous aimons lire la Bible de manière systématique et continue. Nous aimons des prédications expositions qui nous font cheminer en fait dans les textes bibliques et faire face en fait à tout le conseil de Dieu qui nous est donné dans la Bible. Alors nous continuons aujourd'hui l'exposition de l'Évangile selon Marc. Et nous sommes dans les dernières heures de Jésus. Jusqu'à la dernière fois en fait, on a parlé de Jésus alors qu'il était en liberté. Et la dernière fois, on s'est arrêté au moment où Jésus a été arrêté. Jésus a été arrêté et nous allons aujourd'hui voir un texte qui parle de lui, on l'a déjà lu tout à l'heure, hein, en tant que prisonnier. Donc Jésus est maintenant prisonnier, il n'est plus en liberté. Et nous allons suivre Jésus qui, même dans les endroits les plus sombres, va briller de manière la plus lumineuse. Et le sujet du jour est particulièrement le témoignage. C'est intéressant que ce terme dans Marc ne se retrouve en fait que dans cette partie de Marc. Vous pouvez chercher le terme témoignage, enfin le terme original, hein. Vous ne le retrouverez que ici, en fait. C'est un lieu particulier où il est parlé de témoignage. Et le faux témoignage est aussi utilisé ici. Alors, il y a une exception ailleurs, c'est quand au début de Marc, Jésus parle des 10 commandements et qu'il parle de ne pas donner de faux témoignage dans Marc 10. Ça, c'est le seul autre endroit où il parle de cela. Sinon, tout est ici. Donc ce texte est vraiment un texte en lien avec le témoignage. Et on a 3 types de témoignages dans ce texte. Et ceux qui vont les vivre sont présentés dans les 2 premiers versets qu'on a lus tout à l'heure. Alors je vais relire ces versets, puis vous allez essayer déjà vous-même d'identifier soit les personnes ou les groupes de personnes qui vont donner un témoignage. Alors je relis ce texte, donc c'est Marc 14, verset 53. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'est réunir tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Voilà, 2 versets qui nous présentent déjà tout. La première personne présentée dans ce verset, c'est qui? Vous avez vu, verset 53? Jésus, c'est ça, joli, exactement, c'est Jésus. Et Jésus va donner un témoignage véritable, en fait. Ce sera l'objet de notre deuxième point, intitulé « Le véritable témoignage donne toute sa force ». C'est la vérité qu'il va dire. C'est le seul qui va dire la vérité, d'ailleurs. Ensuite, nous voyons le souverain sacrificateur avec les autres sacrificateurs, les anciens et les scribes. C'est en fait le Sanhédrin, c'est un lieu de jugement. Et en fait, eux, ils chercheront à trouver des faux témoignages. En fait, ça sera notre premier point. Parce que Marc, ensuite, le présente dans un certain ordre dans les versets suivants. Et c'est dans cet ordre-là qu'il le présente. Et donc, le premier point, ça sera le faux témoignage lui enlève toute sa valeur. Le faux témoignage lui enlève toute sa valeur. Et pour terminer, nous avons Pierre. Pierre qui suit de loin, qui vient dans un endroit dangereux. Et il sera aussi l'acteur d'un témoignage que j'intitule le témoignage défaillant qui affaiblit ce témoignage. Dans le témoignage de Jésus devant le Sanhédrin où il révèle qui il est et les témoignages de Pierre qui cache qui il est se déroulent en même temps. Alors là, pour ceux qui ont un peu moins l'habitude des questionnaires, je vais répéter la phrase, ça veut dire qu'elle est sur les feuilles et que vous pouvez compléter, c'est magnifique. Donc le témoignage de Jésus devant le Sanhédrin où il révèle qui il est et le témoignage de Pierre, qui cache qui il est, se déroule en fait en même temps. Mais comme on n'arrive pas à écrire 2 choses en même temps, ou à dire 2 choses en même temps, ben il faut choisir laquelle on dit en premier. C'est ce que Marc a fait ici. C'est pour ça qu'on n'a pas les deux choses en même temps, c'est pas possible. Mais il a choisi ensuite de présenter ce qui s'est passé avec Jésus. Mais il a présenté Pierre juste avant. Hein, c'est un moyen littéraire qu'on peut faire pour justement faire comprendre que les choses se passent en même temps. Nous suivrons donc le texte à partir du verset 55. Ça vaut une Bible. Gardez-la ouverte dans Marc 14. On va y revenir. Donc j'aimerais relire les quelques versets là, du verset 55 à 61 pour qu'on soit dans le contexte du premier point. Le faux témoignage lui fait perdre toute sa valeur. Alors 55 à 61. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et il n'en trouvait pas. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent, portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple, fait par la main de l'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors le souverain sacrificateur se leva du milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne dit rien. Jusque-là. Nous sommes ici dans un déni de justice complet. Ou c'est quoi un déni de justice, les enfants? C'est vrai que je dois expliquer ça. Hein. C'est-à-dire que c'est quand la justice, elle est totalement fausse. Voilà. Et je vais vous le démontrer. Dans le cas d'une justice qui est juste, qui est correctement appliquée, eh bien, une personne devait avoir commis un délit, devoir faire une faute que la loi punit, et ensuite elle est arrêtée. Vous êtes d'accord, on ne va pas arrêter quelqu'un qui n'a pas fait de faute. Il fait une faute, puis quand la faute est faite, on l'arrête et on l'amène au jugement. Jésus, ici, est arrêté sans mandat d'arrêt. Il n'a pas fait de faute. Et en fait, ils ne savent même pas encore comment ils vont l'accuser. Deuxièmement, il fallait 2 témoins au moins, et le témoignage était tellement important devant Dieu que les 2 témoins devaient subir la peine qu'ils auraient fait subir si c'était des faux témoins. Donc si quelqu'un disait un mensonge et que quelqu'un était condamné à payer 1 000 francs et qu'on découvre que c'était un mensonge, ben la personne qui a dit le mensonge devait payer les 1 000 francs, même si elle n'avait rien fait, elle avait dit un mensonge. Et le mensonge faisait qu'elle paye 1 000 francs. Dans ce cas ici, la peine, c'est la mort. Donc celui qui ment et que l'autre est mis à mort, si on découvre qu'il a menti, c'est lui qui est mis à mort. Parce que le témoignage est tellement important, il doit être vrai. Donc dans ce cas, les témoins auraient dû être mis à mort. Et ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible, dans la Torah. Mais les Juifs avaient encore d'autres règles qu'ils avaient même ajoutées. Et voici ce qu'un commentateur dit. Dans le cadre d'une peine capitale, donc pour la peine de mort, la loi juive stipulait qu'un jour entier devait s'écouler entre le verdict, donc quand on a dit qu'il a été mis à mort, et l'exécution. Il fallait un jour entier. Pendant ce temps, les membres du tribunal devaient jeûner en prenant le temps de réfléchir sainement au verdict rendu. Et ce délai permettait aussi la présentation de nouveaux témoins ou la découverte de nouvelles preuves. Par conséquent, le procès ne se tenait jamais à la veille d'une fête lorsqu'en fait on ne pouvait pas jeûner. Et quand ils respectaient cette règle et ces prescriptions, eh bien le système juif de jurisprudence était miséricordieux et équitable. Rien n'a été vécu. Et encore, j'ai lu ailleurs qu'aucun jugement ne devait être fait la nuit. Alors on peut continuer à chercher tous les éléments qui avaient été mis en place pour une justice qui était vraie. Rien n'a été respecté. Rien n'a été respecté. C'est un déni complet de justice. C'est le contexte dans lequel le faux témoignage va pouvoir trouver sa place. On peut prendre un petit crayon là. Je peux écrire. Rien n'a été respecté. C'est un déni complet de la justice. C'est le contexte dans lequel le faux témoignage va pouvoir trouver sa place. C'est là que le faux témoignage peut trouver sa place. Lorsque la justice est vécue, le faux témoignage ne peut pas trouver sa place. Mais ce n'est pas nouveau, malheureusement. Nous l'avons vu, dans l'histoire, il y a déjà eu des choses comme ça. Vous vous rappelez de Jézabel, qu'on a lu tout à l'heure? Nous avons lu l'histoire de Jézabel qui demande de faire semblant de procéder à un juste jugement pour éliminer Naboth. C'était la même chose. Ce n'est pas nouveau. Nous avons lu l'histoire de Jézabel qui demande de faire semblant de procéder à un juste jugement pour éliminer Naboth. Et pourtant, les membres du Sanhédrin connaissaient cette histoire. Mais quand l'aveuglement de l'orgueil, de la jalousie et du désir de pouvoir voile la face, ils sont même capables de récidiver après Jésus. Et j'étais frappé de constater que le jugement d'Étienne est très semblable à celui de Jésus. Le jugement d'Étienne est très semblable à celui de Jésus, avec des faux témoins qui reprennent d'ailleurs le même sujet du temple détruit annoncé. La même chose. Donc le jugement d'Étienne est très semblable à celui de Jésus, avec des faux témoins qui reprennent d'ailleurs le même sujet du temple détruit annoncé. Ceux qui ne cherchent pas la vérité, mais le pouvoir et la notoriété, vont très rapidement utiliser les faux témoignages et récidiver. Mais je trouve quand même quelque chose d'assez fabuleux. C'est qu'il est très difficile, et ça c'est une grâce de Dieu, hein. Il est très difficile de faire concorder deux mensonges. Ça c'est magnifique, c'est une grâce de Dieu. Il est plus facile de faire concorder deux témoignages de vérité lorsque deux personnes ne se connaissent pas, ne se voient pas, enfin ils ont vu peut-être la même chose, mais ils ne se parlent pas, on en demande à un, l'autre n'est pas présent, on demande à l'autre, et là ben, on voit que c'est la même chose, c'est la vérité. Si on fait cette même démarche avec le mensonge, on va vers quelqu'un, il raconte un mensonge, donc il n'a pas pu parler avec l'autre, hein, rien du tout, puis l'autre il vient, comment il va réussir à concorder? Alors c'est vrai qu'on peut préparer les choses. Le Sanhédrin a vraisemblablement dû payer ces gens d'ailleurs pour témoigner. Mais là, il semble que c'était trop rapide. Ils n'ont pas pu vraiment se préparer. Et Dieu a permis cela pour que nous puissions, que ça éclate au grand jour, que ce sont des faux témoins. Et la conséquence du faux témoignage est ultimement le jugement de Dieu, en fait. Quand Jésus va dire après qui il est et ce qu'il, que le Fils de l'homme viendra, etc., il annonce déjà le jugement à ceux qui sont en train de le juger faussement. Mais donc les conséquences du faux témoignage est ultimement le jugement de Dieu, qui peut arriver rapidement. Et dans l'Ancien Testament, je donne un exemple dans l'Ancien, un dans le Nouveau. Est-ce que vous avez un exemple dans l'Ancien Testament d'une personne qui a menti et qui a été jugée? Oui, c'est ça, Géasi. Bien joué. Peut-être que quelqu'un y a pensé. Géasi, hein, c'est le serviteur d'Élisée, quand il y en a un manqué venu, et puis il est reparti, il n'a rien donné parce qu'il a plein d'argent. Puis Géasi s'est dit, non mais quand même, il a plein de fric, on ne va pas le laisser partir. Il a été cherché, puis il lui a menti pour avoir de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé pour Géasi? Il a eu la lèpre que Naaman n'avait plus, c'est lui qui l'a reçue. Parce qu'il avait menti. Un faux témoignage, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Il y a un jugement qui peut même être rapide. Dans le Nouveau Testament, il y a un cas très très marquant. Ananias et Saphira. C'est par un mensonge en fait qu'ils ont été ensuite mis à mort. Par Dieu lui-même, c'est même personne qui agit. Hein. Le faux témoignage est quelque chose de très 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 grave. On ne ment pas, Dieu veut la vérité. Et ici, en face de l'homme parfait qui n'a jamais péché, c'est la démonstration éclatante de la corruption profonde de l'homme par lui-même qui ne veut pas du Messie. C'est quelqu'un, il ne pouvait pas trouver chez lui de faute. Et c'est là, en fait, que va se réaliser les prophéties où il est dit qu'il ne dira rien, qu'il se laisse livrer comme un agneau. Il ne dira rien du tout. Et cela se reproduira devant Hérode et devant Pilate. Chaque fois qu'il y a un déni de justice, Jésus ne dit rien. Il ne dit rien. Jésus nous apprend ici d'ailleurs qu'il n'est pas utile ni opportun de défendre sa cause devant une justice qui ne cherche pas la vérité. Nous savons qu'un jour, la justice sera faite sans aucune erreur, sans aucun parti pris. Donc prions pour ceux qui font la justice parmi nous et soyons reconnaissants pour les tribunaux qui existent encore aujourd'hui où on désire rechercher la vérité et qui ainsi reflètent, même pâlement et avec bien sûr quelques défauts évidemment, la justice de Dieu. Mais quand Jésus prend la parole, parce que Jésus va prendre la parole, il la prend quand il est appelé à donner son identité, pas à se défendre face à des mensonges. Et le moment était venu. On voit souvent dans Marc, ne dites pas qui je suis, non, ne dites pas. Et là, tout à coup, le moment est venu. C'est notre deuxième point. Hein? Le véritable témoignage lui donne toute sa force. On va regarder chapitre 14, on reprend verset 61, où il est dit ceci. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du béni ou du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses... Non, je ne vais pas le faire. Hein. Mais je vais pas me tourner. Déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, tous le condamnèrent comme passible de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à des coups de poing lui disant « Devine !» Et les gardes le reçurent avec des gifles. Pour mieux comprendre les paroles que Jésus va prononcer ici, je pense qu'il est bon qu'on se rappelle de deux textes de l'Ancien Testament. Parce qu'on n'a encore pas toujours l'habitude d'avoir tous ces textes en tête. Donc, deux textes qui font allusion à une personne qui reçoit de Dieu la puissance et qui est placé au même niveau que Dieu. Ça, c'est des textes que les sacrificateurs pouvaient avoir en tête. Je ne sais pas s'ils les avaient, mais ils pouvaient les avoir, et je suppose qu'ils les avaient. Le premier, c'est dans Daniel, Daniel 7, 13 et 14, je vous le lis, et c'est Daniel qui raconte ici. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Voilà un premier texte qui doit nous aider à chaque fois que vous lisez « Fils de l'homme ». En fait, c'est ce texte qui est la référence. Certains pensent que « fils de l'homme », c'est pour dire que Jésus est humain. Ben moi, je ne peux pas vous dire s'il y a d'autres sens qui sont cachés derrière, peut-être. Qu'il y a des... mais quelqu'un qui est pétri de l'Ancien Testament, ce n'est pas ça. C'est Daniel 7, qui parle de ce fils de l'homme qui reçoit la domination. Et puis dans le psaume 110, les versets 1 et 2, que d'ailleurs Jésus a cité au chef les jours précédents, donc de David, un psaume, oracle de l'Éternel à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra le sillon, le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Donc là, cette notion d'être à la droite, c'est-à-dire d'avoir la puissance et le pouvoir. Et puis d'ailleurs, il avait posé, ou rappelé peut-être à mon chef, dire « Mais comment David, il peut dire mon Seigneur alors que lui, il l'a écrit, etc. Hein. » Et là, ils n'avaient pas pu répondre. Mais ces deux textes sont vraiment présents. Et quand Jésus dit « Je suis », bon, dans vos Bibles, c'est écrit « Je le suis », mais c'est « ego eimi », c'est le « Je suis hein. ». Mais on ne s'y attarde pas, parce que pour moi, ce n'est pas l'élément principal ici. C'est la suite. « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Ça, c'est ce que Jésus a dit. Quand tu lui poses la question « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Il répond « Je le suis » ou « Je suis » et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Il n'y a aucune ambiguïté. Aucune ambiguïté. C'est dire quoi ambiguïté? C'est-à-dire que il n'y a pas une mauvaise compréhension possible. C'est clair. Il indique clairement qu'il est cette personne et les pharisiens comprennent bien qu'il se présente comme étant Dieu. Donc il y a deux possibilités. Soit Jésus dit la vérité, et c'est alors un puissant témoignage, ou alors, il ment, et c'est un blasphémateur. C'est soit l'un, soit l'autre. Et le Sanhédrin, en passant, il n'était certainement pas complet, ils n'étaient certainement pas les 71, il y en a 71 qui devaient être présents, mais apparemment, en étant 23, ils avaient le quorum. Donc voilà. Quand Marc, il a dit que tout le Sanhédrin était présent, c'est-à-dire qu'il était apte à prendre une décision. On sait que Joseph d'Arimathée, par exemple, n'était pas présent, etc. Mais donc le Sanhédrin, cet outil mis en place par Dieu, ne considère pas la première option possible, que Jésus dise la vérité. Ils ne le prennent pas comme possible. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont vraiment écouté. Parce que, une chose que je n'ai pas dit avant par rapport au déni de justice, ils ont commencé à le mettre en jugement en ayant déjà préparé la sentence. Il n'y a aucune vérification. Aucune réflexion, aucune votation, comme cela se faisait normalement, hein, il y avait une votation. Ainsi, la vérité ne pouvait pas être mise à jour. Mais quelles sont les conséquences de ce témoignage véritable? Parce que c'est un témoignage fantastique que Jésus nous donne ici, c'est vrai. Eh bien, dans un contexte où le mensonge domine, c'est la raillerie, la moquerie, c'est le rejet, c'est Parce qu'en fait, aucun mensonge ne peut faire face à la vérité. Et quand la vérité est là, ce n'est pas des mots qui peuvent être utilisés, c'est souvent le mépris. La violence et le mépris sont les armes de celui qui ne vit pas et n'aime pas la vérité. Celui qui vit et aime la vérité n'utilise pas la violence et le mépris. La violence et le mépris sont les armes de celui qui ne vit pas et n'aime pas la vérité. Mais Dieu dirigeait tout cela afin que Jésus soit condamné pour la vérité. C'était important. Pourquoi ? Parce qu'ainsi, jusqu'à son dernier souffle, Jésus a été parfaitement pur, sans aucun péché. Sans aucun péché. Mais dans un contexte de vérité, là, c'est un contexte de mensonge, mais dans un contexte de vérité, le témoignage de Jésus-Christ devant le Sanhédrin est juste fantastique. Et en fait, ce témoignage que Jésus a donné là, ce n'était pas que pour eux. C'était aussi pour nous. Le témoignage que Christ donne ici est aussi pour nous. Le fait que nous entendions ces paroles « je suis et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les lunettes du ciel », c'est quelque chose qui nous rassure. C'est la réalité. Il se déclare lui-même être Dieu. Quand quelqu'un vous dit « Jésus, il est sympa », enfin, les chrétiens, c'est pas trop sympa, mais Jésus, ouais, il est super. Tu vois, mais Jésus, il a dit lui-même qu'il était le Christ, qu'il était Dieu. Enfin, ici, on voit qu'il est le Fils de l'homme à la droite de Dieu, etc. C'est Dieu. Donc, on va l'adorer. Et en plus, Jésus va le démontrer. Ces paroles qu'il a dites ici, elles vont se manifester. Pourquoi ? Est-ce que Jésus est resté dans la tombe ? Parce qu'il faisait frais, puis dehors, il faisait chaud. Non. Non. Jésus est sorti de la tombe le troisième jour. Pour manifester sa puissance, pour manifester qu'il a vaincu la mort. La mort a été engloutie pour tous ceux qui croient en lui. Le témoignage véritable portera toujours du bon fruit à long terme. Et ce témoignage que Jésus a dit ici, c'est vrai que ça l'a mené à la mort, mais ça mène à notre assurance. C'est un témoignage extraordinaire. Et c'est celui que nous devons rechercher et suivre. Donc le témoignage véritable portera toujours de bons fruits à long terme. C'est celui que nous devons rechercher et suivre. Et Marc nous indique un troisième type de témoignage pour nous stimuler à rester proche de Christ et rester dans le témoignage véritable. C'est les versets 66 à 72. Donc là, vous pouvez reprendre vos Bibles. Puis on arrive vers notre ami Pierre. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Donc vous imaginez, c'est une cour, puis il y avait différents endroits. C'est une cour qui est entourée comme ça, et puis il y a différentes pièces qui sont à différents étages. Et puis Jésus était dans une de ces pièces et Pierre était dans la cour. Comme ça, vous avez un peu l'imagination. Pendant que Pierre était dans la cour, il vint des servantes du souverain sacrificateur. Elle vit Pierre se chauffer, le regarde en face et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant « Mais je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. La servante le vit et se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Il était avec ces gens-là !» Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen et tu parles comme eux. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Alors, il se mit à pleurer. Un témoignage défaillant. Un témoignage défaillant ne tombe pas de nulle part. En fait, que Pierre a vécu ça, c'est préparé. La première, je vais donner quatre éléments que Pierre a vécu juste les quelques heures précédentes qui ont amené à ce qu'il a vécu là. Premièrement, la prétention. Dans Marc 14, c'est juste avant, au verset 29, c'était très clair. Pierre, il dit à Jésus, « Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas. » Et Jésus lui dit, « Mais en vérité, je te dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, toi, tu me renieras trois fois. » Et Pierre affirmait plus fort, « Mais quand il faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Moi, je vois bien Pierre, là, c'est... T'imagines pas, mon pote. Bon. Et tous disaient de même. Ils n'étaient pas seuls. Chacun avait cette motivation. Et c'est là qu'on doit se dire, dès que vous vous dites ou quelqu'un dit vous dit qu'il n'a pas de problème, qu'il ne tombera jamais dans la tentation, de grands voyants rouges devraient arriver. C'est de la présomption, c'est de la prétention. Oh. Alors, si vous avez marché sur l'eau, si vous avez chassé des démons, guéri des malades, si vous avez vu Jésus transfiguré, vous avez même témoigné publiquement qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, peut-être vous sentirez-vous un peu comme Pierre, peut-être. Alors soyez prudent. Mais si vous n'avez pas vécu tout cela, alors soyez encore plus prudent. En fait, je vais mettre toutes mes forces et tous les moyens que j'ai pour résister et je compte sur Dieu pour me garder. Je ne dis pas easy peasy, je dis on y va et puis je vais avec la force de Dieu. Alors attention, évitons la prétention, soyons humbles. Deuxième élément, une mauvaise préparation. Toujours dans chapitre 14, on va plus loin, verset 37. Donc Jésus prie, c'est très difficile ce qui se passe à Gethsémané. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, qui venait de lui dire « Je serai avec toi jusqu'à la mort, etc. » « Simon, tu dors ? Tu n'as pas été capable de veiller une heure ?» Et là, il dit une chose très importante qu'on avait vue ensemble. « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit ceci. « Celui qui s'agenouille devant Dieu peut tenir debout devant n'importe qui. » Celui qui s'agenouille devant Dieu peut tenir debout devant n'importe qui. Aller dans un contexte hostile où Jésus n'est pas, n'est pas le maître, n'est pas à prendre à la légère. C'est avec la force de Dieu qu'il faut agir et prendre du temps dans la prière. C'est essentiel. Et ma prière, c'est qu'on grandisse, que je grandisse, que nous grandissions dans ce domaine. Que nous prions, c'est important de prier. Avant d'aller dans des situations qui peuvent être difficiles. Troisième élément. Pierre est dans l'illusion encore. Il est dans une illusion. On continue dans le texte. Mais là, je prends Matthieu parce qu'il nous donne quelque chose d'intéressant quand Jésus lui parle dans le jardin de Gethsémané. Les gardes arrivent. Pierre sort son épée. Vous vous souvenez de l'histoire, hein? Sort son épée. Tac, il coupe l'oreille de... Comment il s'appelait? Ah, et Malchus, c'est Jean qui nous le dit. Hein, c'est le serviteur souverain sacrificateur. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Pierre, il croit toujours encore que Jésus va établir son royaume sur cette terre, qu'il va être roi, puis que lui, il sera à côté de lui, puis il sera tout fier d'être à côté du roi et puis de régner avec les autres. Il est toujours dans cette illusion. Quand l'illusion sera passée, et nous le verrons après la résurrection, il sera prêt à mourir en martyr, sans aucune gloire. Sachant que le royaume de Dieu, ce n'est pas de briller ici-bas. Mais dans le cadre de son témoignage défaillant, il est illusionné en fait. C'est ça qu'il attend. Cela nous indique l'importance de bien comprendre ce que signifie vivre pour Christ, ce qu'est l'évangile, ce qu'est le royaume de Dieu. Et quatrième élément, une curiosité malsaine. Ça, on l'a dans notre texte ici. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Pierre n'est pas en train de suivre Jésus pour le soutenir ici. Peut-être espère-t-il encore que Jésus tel Samson, il va tout fracasser, puis là il sera présent pour justement être à ses côtés. Vous voyez l'histoire, quoi. Peut-être qu'il a cette idée. Mais Pierre n'est pas venu pour soutenir Jésus, en fait. Hein? Il aimerait juste savoir ce qui va se passer. Et il se mêle à ceux qui sont hostiles à Jésus-Christ. Pourquoi irions-nous dans des endroits juste pour voir comment ça se passe? Ne soyons pas aveuglés par la curiosité ou une fidélité feinte. Il faut couper avec le péché, avec tout ce qui peut nous tenter. Et Owen était très fort avec ça, il disait « Tuez le péché ou c'est lui qui vous tuera ». Ne jouons pas avec le feu. Vous connaissez, quand je parle de feu, vous connaissez, ça vient peut-être les proverbes, vous viennent en tête. Moi, j'aime bien l'illustration des proverbes, où il a dit « Quelqu'un mettrait-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ?» Essayez de mettre du feu dans votre poche. Non, essayez pas. Si vous mettez du feu dans votre poche, il y a tout qui brûle, vous êtes d'accord? Si on met de l'eau, ça vient tout mouiller, ça va encore. Mais du feu, tout qui brûle. Pierre, avec son accent galiléen, aussi reconnaissable à Jérusalem qu'un Québécois à Neuchâtel, pense faire croire qu'il n'est pas en lien avec Jésus, qui a le même accent que lui. Le témoignage défaillant de Pierre ne lui tombe pas dessus par hasard, en fait. ou tout à coup venant de nulle part. Sa défaillance même était prévisible. Et Jésus l'avait annoncé. Alors, quelles sont les conséquences du témoignage défaillant? Bien, une première conséquence, c'est que Pierre a perdu tout crédit envers les personnes à qui il s'est adressé. C'est un menteur. Puisqu'il vient dire « je ne connais pas ». Une deuxième conséquence, plus grave encore, c'est qu'il a ajouté de la peine à son maître par son reniement. Alors qu'il venait de lui promettre fidélité. Quelques heures avant, « je te serai fidèle jusqu'au bout ». Et là, il le renie. Et Jésus le sait. Donc une deuxième conséquence plus grave est qu'il a ajouté la peine de son maître, son reniement, à la peine de son maître, son reniement, alors qu'il venait de lui promettre fidélité. Et une troisième conséquence, c'est qu'il s'est lui-même séparé de celui qu'il aime par son reniement. C'est lui qui s'est retiré, c'est pas Jésus qui s'est retiré. C'est lui-même qui, quelque part, s'est retiré. Il a même fait des imprécations contre lui-même. Et s'il était pris au sérieux par Dieu, vous savez ce qui serait arrivé? Pouf, il serait mort d'un coup, là. Heureusement que Dieu n'a pas pris Pierre au sérieux, là. Parce que des imprécations, c'est dire « que Dieu me fasse ceci ou cela », enfin c'est ce qu'ils ont dit dans l'Ancien Testament, hein. « Si ce que je dis n'est pas vrai », c'est-à-dire que la foudre me tombe dessus. Ne jouez pas avec ça. Hein. Moi, des fois, un jour, on m'a déjà dit « que la foudre me tombe dessus si je dis faux », je dis ah, « ne joue pas avec ça ». C'est super dangereux. Mais n'y a-t-il plus d'espoir pour Pierre? Mais Pierre n'a pas donné un faux témoignage, comme on l'a vu avec le Sanhédrin. Il ne veut pas répandre des mensonges. Mais ce n'est pas un témoignage véritable. Il est défaillant. Et que fait Pierre ici? Il fait la première chose qu'on doit faire lorsque ça nous arrive. Il pleure. Quand le coq chante, voilà. C'est bon là, vous souvenez? Quand le coq chante, ça lui fait se souvenir. Il pleure sa faute. Et en fait, que fait Pierre ensuite? Il part, il laisse Jésus, et puis il va faire autre chose, il va pêcher de nouveau. Non. Il a envie d'être vers Jésus. Il ne sait plus quoi faire, il est désespéré. C'est qui le premier qui est dans le tombeau vide le dimanche? C'est Pierre. On voit quelqu'un qui est resté dans cet amour pour Jésus, même si ben, il sait qu'il lui a fait mal. Mais il l'aime. Et ça, c'est pour nous un tellement grand encouragement. S'il nous arrive d'avoir cette notion d'un témoignage défaillant, reconnaissons notre faute, allons vers lui, aimons-le, continuons à l'aimer. Ne faisons pas comme Judas. Judas n'aimait pas Jésus. Pierre l'aimait. Et j'ai dit, c'était le premier dans le tombeau vide. C'est aussi celui qui annonce l'évangile à la Pentecôte. C'est lui qui ouvrit la porte aux païens. Jésus le rétablira parce que Pierre s'est repenti, a cru, a saisi cette grâce de Christ et aime Jésus. Pierre devra apprendre à ne pas compter sur lui-même et savoir qu'il est faible. Il va continuer à être faible dans ce domaine. Ça, c'est intéressant de voir que Pierre, il est faible dans le domaine du regard des autres. C'est quelque chose qui est difficile pour lui. Plus tard, c'est même Paul qui va le reprendre. Il dit, attends, quand il y avait les païens qui étaient là tout seuls, tu mangeais avec eux, maintenant qu'il y a les Juifs qui arrivent, tu tailles là. C'est quoi cette histoire? La même chose de nouveau. Et Pierre peut de nouveau se repentir et revenir à Christ. Sachons aussi être capables de voir nos vulnérabilités, ne pas en avoir peur, nous entourer de personnes qui nous aident à cheminer aussi et surtout à nous nourrir du témoignage de Christ qui donne le seul véritable témoignage. En conclusion, j'aimerais juste qu'on se souvienne que le témoignage de Christ brille. Il brille ici, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, dans tout ce qu'on a vu ensemble, c'est assez sombre quand même. Les faux témoignages, il y a Pierre qui a un témoignage défaillant, il se dit « waouh, c'est quoi toute cette histoire ?» Et là au milieu, vous avez le verset 62, où Jésus dit qui il est, c'est comme un jet de lumière extraordinaire qui est dans ce texte. Dans les pires endroits, ce témoignage peut se manifester. Mais ça veut dire aussi que dans nos vies, dans les pires moments, c'est là qu'un jaillissement de lumière de Christ lui-même peut se manifester et peut transformer nos vies. Le véritable témoignage produit toujours de bons fruits éternels. Donc, fuyons dénonçons les faux témoignages, hein, et repentons-nous de nos défaillances. Mais vraiment, le véritable témoignage de Christ produira toujours de bons fruits éternels. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous donnes cette grâce avec Marc d'être entré dans cette cour, d'avoir vu ce qui s'est passé chez le souverain sacrificateur. C'est pas glorieux, c'est vrai, de la part des hommes, de tout ce qui a été fait, mais cela nous permet de comprendre l'état du cœur de l'homme sans toi, corrompu, qui est même capable de condamner le plus juste qui existe, celui qui n'a jamais dit de mensonge. Cela nous montre aussi, Seigneur, par Pierre, que même le plus courageux, même celui qui est prêt à même aller dans des zones dangereuses, eh bien, en fait, n'a pas la force par lui-même de tenir. Mais Seigneur, nous avons ce témoignage extraordinaire que Christ a donné ici, de qui il est, il tient debout devant tous. Même après, dans les crachats ou dans les gifles et tout ça, il est là. Il ne se laisse pas démonter parce qu'il est dans la vérité. Oh, donne-nous cette grâce, Seigneur, de vivre dans cette vérité. Merci parce que tu nous donnes la vérité en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous le croyons, nous voulons le saisir et nous voulons le vivre. Donne-nous, Seigneur, d'avoir vraiment de la haine du mensonge, que nous en détournions et que nous vivions, Seigneur, un témoignage vrai, vivant, radical pour toi, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.